Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui.
On vient de faire l'amour, tu sais.
Non, tu viens de faire l'amour.
Je vous demande pardon.
Est-ce que vous l'aimez?
Je t'aime.
Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça?
Bonjour Clara.
Bonjour Flore et bienvenue dans Romcomment, le podcast qui t'explique comment mais comment sont créées tes romcoms favorites. N'essayez pas de vous justifier, on a tous essayé de se créer une vie sur un Skyblog ou sur un MySpace en voulant dater quelqu'un qu'on ne datait pas vraiment. Et si vous ne l'avez pas fait, vous êtes sans doute d'extrêmes bonnes personnes. Personnellement, j'aimais à m'imaginer une relation avec Hermione Granger. Et qui êtes-vous finalement pour me juger? Et c'est de ce trope-là dont nous allons parler dans cet épisode. Mais Flore, qu'est-ce qu'un trope?
Pour le petit rappel, le trope, c'est un schéma récurrent dans la fiction.
Exactement, et nous avons choisi pour étudier ce trope de la fausse relation, de regarder le film À tous les garçons que j'ai aimés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ma chère Flore?
Oui, bien sûr. Alors, À tous les garçons que j'ai aimés, c'est un film qui est sorti en 2018 seulement sur Netflix et qui a été réalisé par Susan Johnson. Il est inspiré de la trilogie de livres Les Amours de Lara Jean, qui a été écrit par Jenny Han, qui est une autrice américano-coréenne. Mm-hmm. Donc, petite fun fact. Le cast, en principal, on a Lana Condor et Noah Centineo. Donc, un cast un peu inconnu, ce qu'en général fait Netflix quand il lance un film.
Exactement.
Et c'est un film qui, de manière générale, a eu une très bonne réception au niveau de la critique et a été plutôt approuvé.
Mm-hmm.
Du coup, tu nous résumes un peu le film?
Eh ben, avec plaisir. Nous suivons donc l'histoire de Lara Jean. C'est quoi son nom de famille? Kovi. C'est drôle parce que c'est le nom de famille de mon grand-père. Donc, voilà. C'est un fun fact pour vous, cher auditeur. Nous suivons donc les aventures de Lara Jean Covey, qui est une jeune femme américano-coréenne, comme l'auteur du livre, et qui a écrit 5 lettres à 5 amoureux secrets, 5 garçons qu'elle a aimés et à qui elle n'a jamais osé le dire. Et un jour, par une action mystérieusement divine que nous découvrirons à la fin du film, ces lettres sont envoyées à leur destinataire, contre le gré de Lara Jean, qui va devoir essayer de un peu gérer ses émotions avec le garçon qu'elle aime actuellement et le garçon qui a reçu la lettre. Personnellement, quand ce film est sorti, il me semble que c'était un peu en fin d'année, c'était un peu un film de rentrée de Netflix, enfin fin août, un truc comme ça. Et je me souviens qu'au bureau, on avait tout vu, on l'a vu tout en même temps avec mes collègues et qu'on était toutes agréablement surprises. Parce que généralement, les fictions Netflix, pas pour cracher dans la soupe, mais c'est pas ma tasse de thé parce que c'est très cliché, etc. Et là, c'est une bonne petite rom-com. Moi, je l'apprécie bien. Je trouve que les comédiens sont bien. Et c'est super agréable. En fait, c'est très rafraîchissant de voir un couple mixte, mine de rien, genre coréen, enfin américano-coréen et américain. Et puis une famille pareille, métisse en fait, avec un papa blanc et une mère asiatique. C'est assez nouveau dans les rom-coms parce que c'est vrai que généralement, on a quand même des couples très blancs, qui rentrent dans les normes de la société. Et là, voilà, j'ai bien aimé. Je trouve ça rafraîchissant.
Oui, moi, c'est un truc que j'ai bien aimé avec le film. Je trouve que c'est un peu la première rom-com slash film pour ados de Netflix où t'as pas mal de représentations,
ouais.
Et même dans les personnages secondaires. Du coup, c'est assez agréable, même si on va le voir énormément de clichés aussi.
Bien sûr.
Mais c'est pour ça qu'on kiffe et qu'on signe.
Ah oui.
Et pour moi, c'est un peu la meilleure rom-com l'une des meilleures que Netflix a fait. Parce qu'en plus, ils ont essayé de refaire le miracle, entre guillemets, de À tous les garçons que j'aimais, avec plusieurs films, avec Noah Centineo. À chaque fois, spoiler alert, ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, je trouve que oui, c'est un film qui est vraiment chouette, rafraîchissant et qui se regarde très facilement.
Ouais.
Lara Jean.
Lara Jean, réveille-toi. Tu vas bien?
Qu'est-ce qui s'est passé?
T'es évanouie.
Oh. D'accord, je recommence.
La première scène du film nous pose directement le personnage de Lara Jean, puisqu'elle est en train de rêver d'une scène très romantique avec un garçon. On comprend donc que c'est une fille qui est plutôt très fleur bleue, en tout cas ça a l'air.
Mm-hmm. Et puis c'est pas du tout mon esthétique, mais je trouve ça jolie. la scène est jolie.
C'est très
en fait.
Orgueil et préjugé dans la
vibe.
Ouais,
c'est pas du tout ma cam, mais
c'est ma cam.
À vous toutes, Darcy-Zouze, je vous comprends.
Du coup, dans la première scène, alors là, il faut se concentrer parce qu'on a plein d'informations sur Lara Jean qui sont sorties. On comprend qu'elle a deux sœurs, qu'elle est américano-coréenne, que sa mère était coréenne mais est décédée, et surtout qu'elle est amoureuse du petit copain de sa sœur.
Josh, comme pour les adeptes de films d'horreur, faut qu'on reconnaîtrait le patronyme du personnage qui disparaît au début du Blair Witch Project. Et tout le film, les gens passent le film à faire « Josh !» Voilà, à chaque fois que quelqu'un s'appelle
Josh,
je pense
que tous les Josh sont ultra chiants, mais bon.
Je déteste le Blair Witch. Mais est-ce qu'ils ont un passif, quoi? Bon, voilà.
Et oui, donc elle est complètement in love du copain. Et là, on rentre direct dans un petit cliché de comédie romantique puisque Josh est en fait leur voisin et le meilleur ami d'enfance de Lara Jean, donc, dont elle est amoureuse. Mais spoiler alert, elle ne va pas finir avec son amour d'enfance comme c'est le cas dans de nombreuses comédies romantiques.
On a spoilé si tôt, j'adore.
Personne ne regarde. Si vous n'avez pas vu ce film, éteignez le podcast, revenez.
Revenez. Mais bon, vous êtes déjà spoilé, franchement, restez. Si vous êtes là, c'est que vous faites partie des 5 personnes qui nous écoutent. Donc s'il vous plaît, écoutez-nous. On apprend donc beaucoup de choses sur Lara Jean, et notamment le fait qu'elle a écrit des lettres d'amour à 5 époques de sa vie, donc à 5 garçons qu'elle a aimés et à qui elle n'a jamais avoué ses sentiments. Donc ça va du mec qu'elle a embrassé à une soirée quand ils étaient en 6e, au petit garçon qui s'asseyait à côté d'elle, au MUN modèle au club après les cours. Et le dernier en date, c'est Josh. Mais Josh, comme on l'a dit au préalable, c'est le copain de sa sœur. Sauf que sa sœur Margot, elle part faire ses études dans un autre état ou à l'étranger,
En Écosse.
En Écosse. Ah oui, c'est vrai, à l'étranger. Et du coup, bah, ça sent la séparation. Et Lara Jean, on voit qu'elle est un peu mi-figue, mi-raisin.
En effet, c'est pas trop se positionner, mais le film s'ouvre à moitié sur la rupture. Du coup, l'une des premières scènes, c'est la rupture. Et du coup, là, ça devient en effet très compliqué pour Lara Jean, qui, du coup, le garçon dont elle est amoureuse, à qui elle n'a jamais touché, parce que c'est le copain de sa sœur, bah, se retrouve célibataire.
Je trouve personnellement que Josh, c'est un sourd Rami Malek. Grave bégayé en disant Rami Malek.
Moi, j'aime trop quand il fait pourquoi t'as mis ce bon hiver en plastique. Je sais pas quoi, j'étais là. Comment tu oses attaquer mon type de garçon?
Et c'est la rentrée au lycée, du coup, sa première rentrée sans sa grande sœur. Peu d'émotion.
Voilà, mais elle n'est quand même pas seule puisque on va avoir rapidement plusieurs personnages qui vont être introduits. On a sa némésis, l'ennemi, qui en fait classique trope où en fait c'était sa meilleure amie avant et elles se sont disputées. Et surtout cette fille Jen est devenue très populaire alors que évidemment Lana,
c'est pas grave. Enchaîne, elle s'appelle Lara Jean.
Lara Jean, qui est elle pas du tout populaire et qui est pote avec la fille un peu rebelle du lycée. Par rebelle, on entend quelqu'un qui porte de l'eyeliner noir et un chapeau.
Et du tweed, beaucoup de tweed.
Voilà. Et c'est là qu'on voit pour la première fois Peter Kavinsky.
Ah, ce nom, on a fait frémir plus d'une, hein.
Moi y compris. Peter Kavinsky, qui est le copain de Jen, la fille très populaire.
Exactement. Du coup, on sent que c'est un peu la coqueluche du lycée. Genre, il est grave beau, il est grand, il est carré d'épaule, enfin, on sent qu'il va avoir un rôle prépondérant, et en fait, c'est surtout l'un des garçons à qui Lara Jean a envoyé une lettre. C'était lui qu'elle a embrassé au jeu de la bouteille lorsqu'ils étaient au collège. Du coup, Lara Jean, elle est fatiguée de sa semaine de rentrée, elle rentre chez elle, pépouse, et elle s'endort sur le canapé, comme beaucoup d'entre nous. I mean, mood.
Tous les jours. Sauf que mon canapé est mon lit, donc c'est aussi là où je dors tout le temps.
Cette personne dort beaucoup. Et on découvre un petit peu plus le personnage de Kitty, sa petite sœur, qui en profite pour aller fouiner dans sa chambre, ce qu'on a tous fait également. Elle va découvrir les lettres que Lara Jean n'a jamais envoyées à ses amoureux secrets, et on sait pas trop ce qu'elle va faire avec, mais on a une petite idée.
Alors, pour la petite précision, Lara Jean a écrit des lettres qu'elle ne prévoit de jamais envoyer, mais elle met les adresses des gens dessus. Donc déjà, tu te demandes comment elle a trouvé les adresses. Donc la meuf a quand même fait du petit Google Maps, les pages jaunes pour trouver les adresses des mecs.
Voilà, elle a carrément demandé, et t'habites où, c'est pour jamais t'écrire.
Mais du coup, on enchaîne sur une scène où elle est en train de courir, bref, elle est en cours de sport, et débarque Peter Kavinsky avec la lettre à la main. Et là, il lui dit merci beaucoup pour la lettre, c'est pas réciproque, mais c'est gentil.
Bye girl.
Et là, elle voit la lettre et elle comprend qu'il a reçu sa lettre. Elle panique, s'évanouit, se réveille et voit au loin, et là, que se passe-t-il ? Elle voit au loin Josh, l'ex de sa sœur. L'ex de sa sœur, qui lui aussi a la lettre dans la main.
Et qui arrive genre au ralenti, et c'est terrible, il est là genre... Et elle est là, non, que faire ?
Et elle fait ce qui va lancer ensuite la fausse relation, chose qu'on n'est pas tout à fait sûr pourquoi elle le fait.
Non, en plus il n'y a pas beaucoup de consentement, je suis pas sûre de ce move.
Mais en fait elle l'embrasse, Peter Kavinsky, pour faire fuir Josh, ceux qui ont en fait... fonctionne plutôt bien.
Oui, ça fonctionne très bien.
Je pense qu'elle essaie de faire dire « Cette lettre n'est plus d'actualité, regarde, j'ai quelqu'un ».
Exactement, elle essaie de le rendre un petit peu jalmince.
Et c'est ainsi qu'elle se retrouve ensuite à un diner en train de boire un milkshake et Peter Kavinsky, du coup, l'a suivi au diner et veut discuter avec elle.
C'est encore un peu chelou comme move.
Oui, voilà, comment il savait où elle était? Ah non, si, c'est sa sœur qui lui a dit. Oui, Kitty, elle est dans tous les bails.
Ah, Kitty, franchement, meilleure petite sœur.
Voilà, et du coup, il arrive au diner pour discuter avec elle et lui dire « Mais pourquoi, en fait, tu m'as embrassée, là? Qu'est-ce qui se passe?
C'est chelou, frère !» Franchement, je comprends pas comment, après, arrive la réflexion qu'ils ont tous les deux, à savoir, et si, pour faire croire à Josh qu'elle était passée à autre chose et rendre jalouse la petite copine de Peter qui est son ex...
Oui, on a oublié de préciser, mais ils ne viennent de se séparer. Ah oui, lui, il veut la rendre jalouse, en fait.
Exactement. Et en fait, ils ont une réflexion qui est « Si on faisait semblant de sortir ensemble pour les rendre jalouses tous les deux ?»
La réflexion vient surtout de Peter. Oui, et ensuite, ça. elle est là « Non, c'est mort, jamais. » Et en fait, après coup, elle se dit « Ah, Asia, ça va pouvoir me faire changer de penser à autre chose et arrêter de penser à Josh.
Voilà. »
Et c'est pour ça qu'en fait, elle finit par accepter. Elle débarque sur le terrain de la crosse et dit à Peter « Ok, on le fait !» Il l'embrasse devant tout le monde. Enfin bref, mais là, qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, c'est quelque chose qui arrive très souvent dans la trope de la fausse relation, qui est évidemment, on ne fait pas une fausse relation pour rien, il faut qu'il y ait une utilité.
Oui, un but de vengeance.
Généralement, le but, c'est pour rendre jaloux quelqu'un d'autre, c'est pour gagner en popularité.
C'est pas un but très louable.
Oui, c'est généralement pas pour une bonne raison.
Exactement.
Et donc là, c'est le moment où on va voir un trope qui va revenir dans tout le film, qui est en fait la dynamique entre la jeune fille un peu intello et le mec populaire, un peu sportif, un peu bébête, parce qu'elle va vouloir faire un contrat pour savoir ce qu'ils ont le droit de faire ou non dans la relation. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que l'une des premières règles est « tu n'as plus le droit de m'embrasser ». Parce qu'elle lui dit « j'ai jamais eu de relation et je veux pas que toutes mes premières fois soient fausses ».
Voilà, c'est un truc de vierge de faire des listes avec des clauses et tout.
Le signe astrologique, je précise.
Et également le fait de ne jamais avoir couché avec personne, ce qui est également très louable.
Ce qu'elle veut.
Le fait d'avoir couché avec plein de monde. En avançant, on rappelle les petites choses importantes de la vie. C'est un podcast à visée éducative.
À diffuser dans tous les collèges et lycées d'Île-de-France.
Exactement. Donc, premier jour de leur fausse relation, ils débarquent au lycée en mode Beyoncé et Jay-Z. Et Peter, il fait un move qui est genre maintenant pratiqué, j'imagine, dans les cours de lycée, je ne sais pas. Que faites-vous les jeunes? Racontez-nous.
Tweetez-nous.
At me. Il va en fait la faire tourner en mettant une main dans la poche arrière de son jean. C'est difficile à expliquer genre avec des mots, mais genre regardez la scène sur YouTube, elle y est plein de fois.
C'est ce que tout Twitter a appelé le pocket spin.
Exactement.
Oui, il a la main dans la poche arrière, en effet, il l'a fait tourner devant tout le monde, donc en mode ultra romantique. Et ensuite, il lui passe un petit mot amoureux, bien dans le viseur de son ex, Jen, qui le voit et a un seum absolu. Donc,
elle est si présente.
Faut pas oublier que la fausse relation, c'est que du show, c'est juste pour que les gens pensent quelque chose, en particulier pour que ton ex soit très jaloux. Et du coup, tout ce qu'ils font est fait pour que les gens puissent le voir, parce que là, ils le font en plein milieu du réfectoire.
Exactement. Et comme Peter est un gentleman, il veut inviter Lara Jean à une soirée qui se passe chez le groupe des intellos, en gros, et il va chez son père pour lui demander la permission, ce qui est un peu chevaleresque, qui plaît beaucoup.
Mais c'est là que je me suis dit qu'on voit vraiment que c'est un film qui a été fait en 2018, parce que pendant la soirée, par exemple, il boit pas d'alcool, parce que c'est lui qui conduit, il boit de la kombucha, qui j'ai l'impression, dans d'autres rom-com plus vieille, enfin ça c'est jamais mis en avant.
Oui, ils prennent des Uber, voilà.
Mais donc ça c'est, ou alors ils conduisent bourrés. Donc ça c'est plutôt cool. Mais surtout ça commence direct, on va voir qu'en fait ils ont direct une très bonne alchimie tous les deux.
Ouais.
Parce que il lui dit attends, là t'es plus jolie, les cheveux détachés, je garde ton chouchou. Et surtout parce que je trouve très intéressant, il y a la discussion de, il la met en fond d'écran de son téléphone.
Oui, c'est vrai.
Et c'est là que tu te dis c'est vraiment une rom-com des années 2018.
Ouais, ouais.
2018 carrément, parce que pour cimenter leur fausse relation, il faut que ça passe aussi sur les réseaux, que ça passe sur leur portable. Et du coup, il poste une photo sur Instagram, il prend une photo pour son fond d'écran.
Non, c'est vrai que c'est tout devient en fait prétexte et tout. C'est vachement intéressant l'utilisation de la technologie. On verra après, malheureusement, que c'est aussi un retour de flamme assez violent.
Ça va se retourner contre Lara.
Voilà. Mais donc en gros, il passe une soirée et elle est là, genre bon, ok, Peter Kavinsky, en fait, c'est un good boy. On passe du bon temps, etc. Et on voit que Jen, à côté, elle devient de plus en plus jalmince.
Ouais, c'est vrai qu'elle a un petit échange avec Peter, où clairement elle est jalouse, du coup il est saoulé et il amène Lara Jean au diner pour aller finir la soirée que tous les deux.
Ouais.
Et là, ce qui est pour moi intéressant, c'est comme on a dit tout à l'heure, la fausse relation en général, c'est d'être fait devant tout le monde pour que tout le monde puisse voir. Et là, en fait, il n'y a personne qui les regarde et pourtant ils gardent la même alchimie. Et ils ont une discussion d'ailleurs ultra à cœur ouvert.
Oui, sur leur, sur, enfin, la mère de
oui, sur la mère de Lara Jean qui est décédée, le père de Peter qui a disparu,
qui est parti, ouais.
etc. Donc ils ont une conversation ultra mignonne, très ultra bonne alchimie. Et là, ça finit par un tout petit peu bizarre.
Oui.
En gros, il lui demande pourquoi t'as jamais été dans une relation. Et elle dit, voilà, j'ai peur de faire rentrer les gens dans ma vie parce qu'après ils s'en vont. Hashtag relatable. mais il lui dit, mais du coup, pourquoi t'as pas peur avec moi? Et elle répond, parce qu'avec toi c'est fake, donc tout va bien. Et en fait, il se vexe comme un
ouf. Il se vexe de ouf alors que les règles étaient établies, littéralement les règles étaient sur papier.
Surtout que lui, deux secondes avant, il parlait de son ex en mode Jen, je l'aime trop. Donc...
Enfin, non, ça n'a pas beaucoup de sens. Et bon, après, je peux comprendre si tu commences à t'attacher, etc. Mmh. On voit que le personnage, en fait, commence à vivre cette relation comme si elle était vraie et pas du tout comme si c'était juste pour faire chez son ex. Et bon.
Et pourtant, il est quand même toujours au téléphone tous les soirs avec Jen, ce qu'ils discutent et tout. Donc,
oui, bien sûr. Mais
clairement, il a un peu.
Moi, je pense qu'il est amoureux, les garçons.
Ah bah clairement, et on va voir qu'elle aussi va être amoureuse très vite, parce que de toute façon, leur fausse relation, c'est les scènes qui vont suivre, va vraiment se cimenter, et elle le dit, en fait, elle devient un pote avec les potes du mec, et en fait, de plus en plus, la ligne entre ce qui est faux et ce qui est vrai est un tout petit peu coupée. Ouais. On remarquera au passage que dans toutes les rom-coms, elle arrête de traîner avec ses potes, elle arrête de traîner avec tout le monde.
Comme dans, comment ça s'appelle ? Le diable s'habille en Prada, etc. Ouais, j'ai vraiment eu ce truc de les potes qui sont là, mais t'es plus pareil.
Mais non, moi ça a l'air de déranger personne. Tous ces potes qui sont en mode fais ta vie avec ton. Moi j'étais là, elle est où la loyauté? elle finit d'ailleurs aussi quand même par avoir une petite confrontation avec Josh. Donc
ah,
on le rappelle.
Josh
son amour
de jeunesse. Son amour oublié.
Qui lui d'ailleurs n'aime pas du tout le couple en fait qu'elle forme.
Oui, oui elle, d'ailleurs il lui dit son opinion et j'étais là genre qui te l'a demandé Josh? À quel moment quand t'es amie avec quelqu'un tu peux donner ton opinion sur le couple évidemment mais genre en restant respectueux et si tu penses que la personne est gravement en danger là clairement
mais parce qu'en fait c'est encore une fois le trope de la petite intello et le mec populaire parce qu'en fait c'est ça qu'il reproche, il dit pourquoi tu sors avec un mec comme ça qui est un vieux mec populaire nul et toi t'es pas comme ça, vraiment cette idée toujours très
manichéenne
ouais,
un peu de,
et tout le temps dans les rom-coms qu'il y a les populaires et les pas populaires et les gens ne sont pas censés se retrouver au milieu.
C'est véritablement une histoire de Vérone.
Attention, ils viennent pour ta marque.
Ensuite on enchaîne avec le voyage scolaire que j'ai nommé non c'est pas ça.
Attends,
tout de suite.
Tu oublies quand même une scène très importante du repas de famille où elle va manger, donc pour dire à quel point ça devient faux.
Ah oui,
jusqu'au bout elle va manger chez la famille de Peter.
C'est vrai.
Donc quand même un peu étrange parce que tu dis pourquoi il fallait cimenter à ce point-là la fausse relation.
Et c'est là qu'en fait ça devient flou de fou.
Et c'est là que ça devient flou de fou parce qu'ils ont à nouveau une discussion à cœur ouvert. Donc encore une fois on remarque que dès qu'ils sont juste tous les deux, ils parlent vachement en fait. Mmh. Et il y a vraiment une scène où on dirait qu'ils vont s'embrasser. Elle est assise sur le comptoir comme toute femme de rom-com qui se respecte. Elle est assise sur le comptoir de la cuisine.
Les Américains ont des cuisines ouvertes pour ça.
Voilà. Hein. Et on dirait vraiment qu'ils vont s'embrasser.
Donc ensuite, on enchaîne en effet sur le voyage scolaire que j'ai appelé le Club Med des jeunes. Parce que moi, perso, mes voyages scolaires, je sais pas toi, mais à quel moment c'est dans un hôtel 1000 étoiles avec un jacuzzi et où chacun
et
a un
et la
palace.
Meuf, il va alors qu'elle ne sait pas skier.
Oui, c'est au ski.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce petit voyage scolaire? Il se passe que juste avant qu'elle parte, elle a entendu une discussion entre Peter et Jen, donc l'ex, rappelons-le. Où en fait, on comprend qu'ils sont encore quand même très proches. Et du coup, Lara Jean, qui elle-même l'avoue en voix off, commence à avoir des sentiments, se dit oula. Et là, c'est vraiment le moment, encore une fois, où la fausse relation, il y a cette espèce de petite bascule qui se fait, où on se dit mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est du jeu,
est-ce qu'il se fout de sa gueule.
Voilà,
moi, j'avais, en vrai, le premier truc auquel j'ai pensé, j'étais là, c'est trop con, mais c'est encore le personnage féminin qui va être blessé. Et j'étais là, et en fait ça part un peu dans cette direction, mais mine de rien le personnage masculin va être tout autant blessé
parce que surtout elle débarque, donc elle se dit oula comment je fais, faut que je me protège. Donc quand ils vont au ski trip, elle s'assoit pas à côté de lui dans le bus, lui il a l'air grave saoulé,
le shade,
pourquoi tu peux pas être avec moi. Et du coup, s'ensuit quand même une discussion qu'on aime beaucoup, qui est le classique « elle a un meilleur ami qui est gay », avec qui elle a une discussion, donc ça, dans toutes les rom-com du... Bah là, concrètement, on en a fait trois, il y avait tous un meilleur ami gay dans l'histoire. à qui elle avoue qu'en fait, tout était faux, depuis le début, et qui lui dit « mais c'est pas faux, moi je vois comment il te regarde, ok ?» Et on comprend que...
Il est trop chou, son meilleur ami.
Ouais.
C'est un peu un token caractère, parce qu'il il est racisé et gay, donc ça fait quand même beaucoup.
Ouais, mais j'avais quand même bien aimé les personnages secondaires dans ce
Oui, film. Ils sont assez bien développés. Puis, en fait, techniquement, étant donné que les personnages principaux sont eux-mêmes, genre, pas dans les normes, tu vois, de la société, surtout Lara Jean, ça me dérange pas plus que ça, tu vois, d'avoir un token caractère.
Oui, je suis d'accord.
Un token caractère, c'est un personnage qui réunit toutes les contraintes pour qu'un film soit inclusif et divers, en fait. C'est par exemple, si vous avez vu The Perfect Date sur Netflix, aussi avec Noah Centineo, c'est son meilleur ami, qui est genre un loser métisse et gay, et qui est le seul personnage de couleur et homosexuel. Enfin, il y a Camila pas Mendes, si c'est ça, qui est latina, mais bon voilà, c'est un peu un token caractère.
Oui, c'est un caractère qu'en fait on dépose dans le film pour dire « Ah, regardez, il y en a un !» Alors qu'en fait, il sert pas à grand-chose. Mais je trouve quand même que là, dans « À tous les garçons que j'aimais »,
c'est pas vraiment un token caractère.
Il est un peu mis en avant, mais du coup, c'est la fameuse scène de « Mais ça peut pas être faux parce que je vois comment il te regarde. » Et c'est un peu le classique « Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, il y a des choses qu'on ne peut pas faire semblant. » Et du coup, là, elle se dit « Ok !»
Et comme visiblement l'école a pété le budget pour partir dans un hôtel où, je rappelle, il y a un jacuzzi, bah, ils vont dans le jacuzzi, quoi.
Elle va le voir dans le jacuzzi, et là, on se dit... Oh
lui,
my God.
Un petit Jack au calme.
Voilà, alors lui, il est vraiment en mode fuckboy, parce qu'il est installé avec ses deux bras sur le côté, et en gros, il lui dit « Bah, pourquoi tu t'es pas assis à côté de moi dans le bus ?» Ça, c'est un peu leur drama. Et alors moi,
après,
ce que j'ai...
à 17 ans, moi aussi, j'aurais été trop vénère, tu vois.
Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler par leur prénom. Il lui dit Lara Jean, elle a Peter. Qui s'appelle comme ça dans la vie?
Personne.
C'est toujours comme ça dans les rom-com, par exemple Fifty Shades of Grey ou Twilight, ils s'appellent tous par leur prénom en se regardant de façon très intense. Donc,
surtout Twilight.
Surtout Twilight, on dirait de ouf qu'il est constipé. Mais bon, ça, on en parlera dans un prochain podcast si on le fait.
Dans ce jacuzzi, il y a une énième discussion à cœur ouvert, finalement, qui arrive après les petites enroues du début, et ils finissent par
parce que là, il y a le turning point où il lui dit « Mais bien sûr que je voulais m'asseoir à côté de toi dans le bus, j'avais même été acheter ton yaourt préféré. » Et elle lui dit...
Ah oui, parce que, attendez, elle boit des Yakult, et si comme moi, vous êtes fils ou fille d'expatriés en Asie, bah les Yakult c'était la vie quand moi j'étais ado, je buvais que ça, et je me souviens qu'après l'avoir regardé, il y a certains de mes potes qui l'avaient vu qui étaient là genre mais c'est quoi ce truc qu'elle boit, ça a l'air ignoble, et j'étais là, vous ne savez rien.
En fait c'est un peu les Actimel asiatiques.
C'est un peu les Actimel asiatiques, mais c'est exactement ça, mais c'est mille fois meilleur.
Mais du coup là il lui dit j'avais même acheté ton yaourt préféré dans la boutique coréenne dont tu m'as parlé, et là elle fait mais cette boutique est à l'autre bout de la ville, et donc tu comprends qu'il a conduit pour aller chercher son yaourt, et moi là à ce moment là...
L'empreinte carbone.
Ouais, mais moi à ce moment-là, j'étais là, les ours polaires qui meurent, c'est pas grave, parce que franchement, je suis soft de ouf pour Peter Kavinsky. Take my money, Peter Kavinsky.
C'est Greta Thunberg.
Team Peter Kavinsky. Et là, moi ça marche, je l'ai noté dans ma petite truc, j'ai mis, Clara va me dire, quel fuckboy, mais moi ça fonctionne.
Bah disons que, oui, je trouve que c'est un peu canardesque, même si canard est une définition... qui est un petit peu insultante, parce que les hommes sont plus... Dès qu'un mec est mignon, on dit que c'est un canard, et je suis genre, non, mais un vrai move de canard, c'est de conduire 40 minutes pour aller chercher un Yakult.
Ouais, mais c'est l'amour. Et là, elle comprend, c'est l'amour, et elle rentre en pyjama dans le jacuzzi pour pécho Peter Kavinsky. Oh, mais
scène.
À ce moment-là, il reste 30 minutes de film. Donc tu sais.
Et j'étais grave chou que j'étais là, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer?
Et parce qu'en plus, ils remontent, ils se disent bonne nuit, elles rentrent dans la chambre en se disant « Yes !» Et là, spoiler alert, ça
c'est le drame.
Mais du coup, on se rend bien compte que ça va partir en sucette, et ça commence dès qu'elle reprend le bus pour rentrer à la fin du voyage scolaire, et où tout le monde l'applaudit.
Ouais.
Sous-entendu « Haha, on sait que tu as fait quelque chose avec ce garçon. »
Dans le hot tub, en même temps, pour des gamins écervelés de 16 ans, c'est vrai que jacuzzi égale sexe. Alors que jacuzzi égale détente et peut-être un petit martini bianco.
Si vous avez tout joué aux Sims, vous savez que le jacuzzi est égal au sexe. Je suis désolée, c'est pas moi qui fais les règles.
C'est les Sims.
Et donc déjà, elle est un peu mal à l'aise. Elle se dit, mais qu'est-ce que Peter a raconté? Sachant qu'ils n'ont pas couché ensemble.
Non.
Pas que ça devrait avoir de l'importance.
Non.
Mais ils n'ont pas couché ensemble. Et à la sortie du bus, Jen, donc rappelons-le l'ex de Peter, embrouille en fait un peu la tête de Lara Jean.
Ouais.
Donc le trope de la meilleure ennemie revient en scène, puisque Jen du coup va un peu monter la tête de Lara Jean en lui disant « Oh là là, c'est vraiment cool que tu sois ok avec le fait que je sois toujours amie avec Peter parce qu'il est venu dans ma chambre hier soir. » Enfin, il y a un enchaînement, il y a une histoire de chouchou aussi.
Ah oui, le crunchy.
Bref, en fait, Jen fait tout pour, concrètement, mytho, on se rend bien compte,
oui,
pour que Lara Jean se dise « Ah ouais, donc en fait, je suis vraiment le dindon de la farce de cette histoire.
»
Et du coup, elle est saoulée et là, moi-même, elle m'a saoulée parce qu'elle ne laisse pas Peter s'expliquer, qui lui dit genre « Wow, 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 mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle est là « Mais tu sais quoi, c'est fini et tout. » Ça y est, ce bar.
Ce qui est un peu dommage finalement parce que, et en vrai, leçon de vie, laissez les gens s'expliquer.
Ouais,
j'aime
vraiment
pas les gens qui disent non mais tu justifies pas, genre bah si poteau, c'est pour ça que j'ai raison, tu vas voir. Attends.
Mais du coup, pour revenir sur la fausse relation, on en est au stade où ils ont eu une fausse relation qui s'est transformée en une soirée, en une vraie relation. En fait, je pense qu'on pourrait dire qu'ils étaient en vraie relation avant, c'est
oui,
juste
oui,
que eux-mêmes s'en rendent compte.
Ils étaient dans le déni.
Voilà, après. Mais du coup, cette fausse relation qui est devenue vraie, se termine. Donc en fait, cette fausse relation ne s'est pas terminée parce qu'ils ont fini le contrat, entre guillemets.
Ouais.
Ça se termine parce qu'en fait, bah, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, visiblement.
C'est comme être viré alors que t'attendais que vos CDD se terminent, quoi.
Voilà, clairement, ils ont le seum. Et sauf qu'en plus, la pauvre petite Lara Jean ne va pas avoir de répit puisqu'elle rentre chez elle. En fait, sa sœur, qui était donc en Écosse, si vous avez bien suivi, est de retour.
C'est
donc
les vacances de Noël, je
voilà,
crois.
Voilà, Josh est dans le coup, en mode « Coucou, c'est moi !» Sur ce débarque Peter, qui veut s'expliquer. Et donc, il y a une espèce de scène assez classique dans les rom-coms. Ça a un peu pensé à Crazy Stupid Love, où
oui,
c'est un espèce
ouais,
de quiproquo. Enfin, tout le monde s'explique. Et là, la bombe est lancée.
Margot apprend que sa petite sœur était, et peut-être toujours d'ailleurs, on ne sait pas trop, amoureuse de son ex, enfin de son mec à l'époque, et qu'elle l'a plus ou moins été pendant quelques années. Et donc elle est très énervée, elle est plutôt vexée, et elle se sent un peu trahie par sa sœur. Et autrement, on peut se faire trahir par des potes et tout, mais se faire trahir par la fratrie, c'est compliqué.
Mais on remarquera quand même que Lara Jean n'a jamais touché à Josh.
Oui, bien sûr, bah,
mais
ça,
voilà,
ça s'appelle du respect.
Est-ce qu'on peut vraiment contrôler ses sentiments? Oui. Bon, voilà. Mais de toute façon, la dispute ne va pas durer très longtemps parce que Lara Jean va se retrouver dans une situation bien inconfortable.
Un peu épineuse.
Voilà. Où en fait, une vidéo va circuler d'elle sur Instagram. Où on la voit en train d'embrasser Peter Kavinsky dans le jacuzzi et on dirait plus ou moins qu'ils couchent ensemble.
Ouais.
Un petit moment Loana Jean-Edouard pour ceux qui ont la rêve.
Un petit moment le loft.
Voilà, le loft. Mais du coup là, moi c'est un truc que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'on a un petit passage sur le slut-shaming. Pour
voilà,
rappel, le slut-shaming c'est quand en fait on se moque et on blâme une fille qui a une vie sexuelle
voilà,
et on la traite concrètement de pute parce qu'elle a une vie sexuelle.
Exactement. Ce qui n'est pas une pratique recommandée, hein.
Oui,
arrêtez
vraiment
de faire ça,
pas.
S'il vous plaît.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, je trouve, la grande sœur elle lui dit mais t'inquiète pas, puis regarde, pour Peter aussi c'est dérangeant.
Ouais.
Et elle dit non, pour les garçons c'est jamais dérangeant, c'est toujours les héros dans la situation.
Et après, ce qui est un peu vrai, parce qu'en plus le fait que Peter soit assez glorifié au lycée et tout. Enfin, c'est une situation qui est un petit peu épineuse pour Lara Jean.
Voilà. Mais du coup, elle a une conversation à cœur ouvert avec sa grande sœur et en fait, la petite sœur débarque et c'est là qu'elle dit ouvertement « Bon, bah moi aussi, j'ai un truc à avouer. C'est moi qui ai envoyé les lettres parce que je voulais que Lara Jean, en fait, ait une vie. Tout bêtement,
oui,
voilà.
Au
lycée, je voulais qu'il lui arrive des aventures. »
Mood.
Donc là, gros fight, avec un passage que j'ai énormément aimé où la grande sœur dit à Lara Jean « Mais si tu voulais pas que ces lettres soient envoyées, vraiment, pourquoi tu avais mis une adresse dessus ?» Donc ça discute un peu de « En fait, tu te romances dans ta tête, mais est-ce qu'une part de toi n'espère pas un peu que les choses vont arriver
?» Sa grande sœur, qui est la best grande sœur, envoie aussi un mail à Insta pour leur dire d'enlever la vidéo. Elle lui dit « Écoute, franchement, ça va aller et tout. » Et après, on a un autre membre de la famille Covey qui va aussi bien l'aider dans son développement personnel. Ce sera son père, mais c'est encore quelques scènes après. Parce qu'avant, bah, c'est la fin des vacances d'hiver et il va falloir qu'elle retourne au lycée. Et la rentrée, personne n'aime ça, surtout après Noël, quand on a bien mangé.
Voilà, surtout après qu'il y ait, concrètement, elle le dit, une sextape d'elle qui circule alors qu'elle n'a jamais couché avec quelqu'un. Elle pense que tout le monde a tout oublié parce que la vidéo a été ôtée d'Instagram, mais en fait, on se rend compte que sur son casier, quelqu'un a accroché une capture d'écran de cette vidéo. Donc elle, évidemment, elle est très très mal et en fait débarque Peter au milieu de ce bordel et qui est là, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est la meilleure amie de Lara Jean qui dit à Peter, bah, fais quelque chose en fait, c'est à toi de régler. Ouais. Et là, il y a une scène très mignonne où il dit à tout le monde dans le couloir, bah, en fait, écoutez-moi bien tout le monde, pas que ça vous regarde, mais de toute façon, il s'est rien passé, donc maintenant, vous la laissez tranquille.
Ouais.
Donc plutôt mignon. Et il discute avec Lara Jean qui en gros lui dit bah, tu sais très bien qui a fait ça. En fait on sait qui a fait ça, c'est Jen en fait.
C'est Jen.
On a une nouvelle scène très très classique des rom-coms qui est la discussion dans les toilettes. Je sais pas pourquoi mais vraiment dans les rom-coms toutes les discussions importantes ont lieu dans les toilettes des filles. C'est pas du tout...
Si, excuse-moi, moi mes conversations les plus importantes avaient lieu dans les toilettes hein, au lycée.
Ouais mais tu sais pas qui écoute dans le truc d'à côté tu vois, faut faire un peu
attention. Attends, faut ouvrir les trucs, il y a une technique, attends. C'est un sport qui se pratique quand
mais
on est chevronné.
Mais du coup elle a un petit discussion à cœur ouvert à nouveau avec sa meilleure ennemie. Bref, elles essaient de s'expliquer et c'est là que Lara Jean se dit putain, en fait, peut-être que je dois des explications à certaines personnes.
Voilà.
Et la première personne à qui elle doit une explication, c'est à Josh.
Josh ! Elle va donc trouver son super poteau d'enfance et petit crush également. Et ils ont aussi une discussion, beaucoup de discussions à cœur ouvert.
Ouais, c'est pour ça que j'adore.
Cœur ouvert. J'adore. Et en fait, elle lui dit, bah écoute, j'étais amoureuse de toi, mais je crois que là, c'est chaud.
Et en plus, c'est intéressant parce qu'elle parle un peu du fait qu'elle avait un peu projeté des choses sur
lui, qui est
sur lui,
pas forcément vrai.
Et qu'en fait, elle s'est prise à son propre piège avec Peter Kavinsky, où en fait, elle pensait tellement que c'était faux qu'elle a eu peur de rien.
Ouais.
Et du coup, en fait, elle est tombée peut-être la première. Mais ce qui est mignon, c'est que... Enfin, il y a une phrase que j'ai notée que je trouvais très importante parce que ça représente bien l'histoire de la fausse relation. Elle dit « Mais si c'était pas vrai, alors je n'ai rien perdu.
Ouais. »
En fait, tout le problème du personnage de Lara Jean qui a très peur de l'abandon.
Parce que sa maman est morte.
Et voilà. Mais en fait, tout le monde l'encourage à retourner chercher Peter Kavinsky parce que, en fait, elle l'aime, quoi.
He's the one.
Et il faut se battre pour les gens qu'on aime, quoi.
Exactement.
C'est important. Et là, pour moi, il y a l'une des scènes les plus choues, qui est en fait, Lara Jean dit « J'ai écrit tellement de lettres mignonnes d'amour, mais moi, j'aimerais bien qu'on m'en écrive une un jour. » Et en fait, c'est sa petite sœur Kitty qui lui dit « Mais attends !» et qui va chercher des mots. En fait, si vous vous souvenez, Peter Kavinsky donnait des mots de temps en temps à Lara Jean. Et en fait, elle les jetait tout le temps sans vraiment les lire. Et en fait, quand elle les lit, elle se rend compte qu'il lui disait des trucs vraiment très mignons. Et donc, en fait, c'était une lettre d'amour en soi. Et là, elle se dit « Oh my God, je l'aime !»
Elle fait un move très tropien aussi, c'est-à-dire qu'elle va courir pour le rejoindre. Et elle va courir sur le terrain de la crosse et elle est là genre... Comme il y a un petit peu un renvoi avec le début, la scène de un peu rêvée, un peu...
où elle était dans une plaine.
Ouais, un peu onirique, où pareil, il courait dans les champs et tout, là, elle court sur le terrain dans la crosse, elle est là genre... Peter et non pas Josh.
Et surtout, elle arrive et en fait, elle se démine un peu parce qu'elle lui dit « Peter, j'ai un truc à te dire J'ai conduit pour venir ici, parce qu'il y a un running gag qu'elle sait pas conduire. Voilà. » Et en fait, elle s'en va. Et là, elle lui dit « Wow, wow, wow,
attends, reviens. » Est-ce que t'as amené des Yakult?
C'est ça. Et il se rend compte qu'elle a une lettre dans la main. Et il lui dit « C'est pour qui cette petite lettre ?» Elle a encore... La meuf, elle a vraiment des problèmes avec dire ses sentiments à l'oral.
Ouais, franchement, c'est...
On peut comprendre.
Can relate.
Voilà. Mais du coup, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un truc mignon, c'est que... Il lui dit, si tu veux que je lise cette lettre, en fait, faut que tu me la donnes. Faut que t'arrêtes de...
Ah oui, oui.
Que ce soit envoyé par machin ou que je doive la prendre. Là, c'est si tu veux me dire ce que tu ressens,
bah,
donne-la moi.
Tu me dis, ouais. Hop, hop, hop.
Et dans cette lettre, en fait, elle a écrit « Peter Kavinsky, je t'aime bien ». Et lui, sans honte, il lui répond « Bah moi, je t'aime !» De genre tout court, je suis amoureux de toi. Et elle est là « Quoi ?» Et là, hello!
Tout le monde est chouc.
Voilà, moi y compris derrière mon ordinateur, à moitié en pleurs, en mode oh mon dieu, il l'aime! Et du coup, ils s'embrassent, et voilà, en fait, toute cette histoire de fausse relation qui finit par être vraie parce qu'ils se sont apprivoisés mutuellement et ils s'aiment! Moi, ça marche de ouf, voilà, je le dis, je suis conquise.
Moi, je trouve ça mignon, mais bon. Après, il y a la réalité.
Et pour la petite histoire drôle, le film se termine sur en fait, l'un des oui. récipients de l'une des lettres qui débarque, qui sonne chez Lara Jean pour dire « Coucou, c'est moi !» et qui laisse présager en fait, une suite, d'ailleurs, une suite qui va en effet arriver, parce qu'on rappelle que c'est une trilogie de livres.
Oui, et je pense qu'il doit y avoir 3 films, d'ailleurs. Ouais. Et nous attendons la suite avec impatience.
Oui. Hé,
hey, est-ce que je peux te parler ?
À moi ?
Ouais. Alors voilà, sache que... Ça me touche, mais ça n'arrivera jamais.
Je te demande pardon.
Alors, ce trope de la fausse relation, comment il s'illustre dans ce film ? Est-ce qu'il marche, selon toi ?
Alors, pour moi, il marche complètement. Je pense que vous avez compris que j'ai bien aimé ce film, mais ce que j'aime bien... Alors, le trope de la fausse relation, je le prends pas avec des pincettes parce que je pense que c'est complètement irréaliste. Beaucoup de choses sont irréalistes dans les rom-com, mais ça, oui. Je crois que je connais personne qui a jamais fait ça. Ou alors, je me suis fait berner par des relations que je croyais vraies, mais qui étaient fausses. Mais du coup, quand même, je trouve que c'est mignon et je trouve que ça marche parce qu'en fait, les acteurs ont une alchimie de malade.
Ouais, de fou.
Et je trouve que les deux personnages principaux sont vraiment ultra attachants et leur dynamique marche très très bien. Et du coup, nous-mêmes, en fait, dès le début, on commence à dire « Mais c'est pas faux, ils s'aiment pour de vrai !»
Oui.
Donc moi, je trouve que ça marche bien.
Moi, je trouve que ça marche assez bien aussi. Le seul petit reproche que j'ai à faire au niveau de ce trope dans ce film, c'est que je trouve que les choses vont très très vite. Et même si, en effet, j'oublie un peu que ce que c'était d'être adolescent, de par mon grand âge, j'ai 88 ans, c'est faux. Mais c'est vrai que quand on est ado, les choses vont vite en fait. Tu sais, tu tombes amoureux dans 2 jours, 2 jours après c'est fini, tu déprimes pendant 2 mois. Enfin, en fait, ça va très très vite. Mais moi, ça m'a un peu gênée avec ma vision de jeune adulte maintenant. J'étais là genre, oh là là, mais ça va super vite. Même
mais
toi,
ça
le
va quand même, on
tout,
voit, ils ont, ça fait octobre, novembre, décembre, ils ont quand même une fausse relation pendant 2-3 mois. Hein, donc...
Ouais, mais tu vois, à l'échelle de maintenant, 2-3 mois, je trouve ça...
Oui, je suis d'accord. Non, c'est vrai, c'est sûr, après dans les teen movies, c'est bien souvent comme ça. Mais je suis d'accord que ça va assez vite, mais je trouve que... Moi, c'est un truc qui m'a pas dérangée, parce que je trouve que justement, on voit qu'en fait, ils se font emporter eux-mêmes dans leur jeu, et qu'en fait, ils font pas attention, et c'est pour ça que pour moi, limite, ça va si vite, parce qu'en fait, ils font pas du tout attention au fait que, bah, en fait, ils sont vraiment en train de tomber amoureux l'un de l'autre, parce qu'ils pensent que tout est faux. Mais un autre truc, moi, que j'ai bien aimé dans le film, c'est... Comme on l'a dit, c'est un film qui date de 2018 et du coup, il est vachement au goût du jour au niveau de la représentation, mais aussi les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est d'être une fille dans l'époque des réseaux sociaux, quand elle se fait du coup slut-shamer. Et j'aime personnellement beaucoup l'esthétique du film, les tenues de Lara Jean, sa chambre. C'est assez joliment fait. Il y a vraiment une petite patte.
Oui, puis la mise en scène est assez rigolote aussi, tu vois, quand elle... Il y a une voix off. Et je trouve que c'est une bonne utilisation de la voix off. Parce que c'est pas évident d'avoir une bonne voix off en fait. Souvent la voix off sert à rien et elle sert à décrire ce qu'on voit à l'image. Je trouve ça dommage d'utiliser la voix off à outrance comme ça. Mais là, comme c'est un peu sous forme de journal intime finalement, elle raconte un peu sa vie, je trouve ça assez intéressant. Et puis la scène où elle découvre que les lettres sont parties, où genre t'as juste le rat de sa tête au bord d'une armoire avec la boîte vide. Enfin, c'est une jolie mise en scène, les couleurs sont assez pastel et tout. Et je trouve que moi, ce qui m'avait surprise, et encore une fois, ça va dénigrer les films Netflix, alors qu'il y a des films Netflix qui sont incroyables, comme Okja, par exemple, qui a une cinématographie qui est exceptionnelle. C'est très beau. Et en fait, c'est une très belle mise en scène. Le plan est hyper réfléchi et tout. Et je trouve que la qualité de ce film-là n'est pas du tout égale aux autres films Netflix. Et malheureusement, c'est dommage parce qu'on a tendance à dénigrer. C'est un peu ce qu'on appelle les téléfilms maintenant, les films Netflix. C'est ce qui... auparavant on serait passé juste sur France 3 ou des trucs comme ça et c'est bien parce que ça prouve qu'on peut vraiment faire de la qualité et avoir des personnages recherchés, avoir un thème intéressant et tout, même sur uniquement tu vois du divertissement en streaming quoi.
Parce que c'est vrai, je suis totalement d'accord, surtout là on s'est concentré quand on a raconté le film sur le fait que c'était une fausse relation et c'est ce qu'on a mis en avant, mais il y a plein quand même de sous-histoires. Il y a le décès de sa mère, le rapport à l'absence, le rapport au décès, le rapport un peu sur les origines
et la figure maternelle qui est pas là présente,
voilà,
du tout aussi,
la figure maternelle,
pas, elle
la transforme
un peu sur sa sœur,
ouais, enfin, ouais. Et exactement, le rapport à la sororité. Moi, quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est le rapport avec l'ex. Alors c'est vrai que par par moments, un truc quand même qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est qu'on ne comprend pas trop ce que Peter trouve à Jen, qui va en présenter comme une fille très désagréable.
Mais elle est jolie et c'est un peu dommage que par sa plastique.
Mais on comprend quand même qu'ils sont quand même très amis et en fait quand Lara Jean lui dit mais tu l'aimes encore, il dit mais en fait c'était mon premier amour et ça va pas partir comme ça et c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours de l'affection. Et du coup je trouve qu'aussi c'était très intéressant de voir cette partie-là des relations. Enfin, du coup je trouve que ça explore plein d'autres sujets au sein même de la, sujet même de comédie romantique. Et pour moi c'est ce qui marche et d'ailleurs ce qui ne marche pas dans beaucoup d'autres rom-com que Netflix aura fait par la suite. Qui clairement pour moi n'était pas au niveau de à tous les garçons que j'aimais.
Et si jamais vous voulez trouver d'autres rom-coms avec le trope de la fausse relation, nous avons des petites suggestions.
Oui, alors je vous propose dans la série Netflix, il y a eu un autre essai avec Noah Centineo qui s'appelle The Perfect Date.
Je vous le propose pas.
Mais je vous le propose pas non plus. Ça, c'est un bon exemple de ce qui était raté.
Exactement,
dans un film.
C'est, ouais.
Mais dans la même série, on a La Proposition avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds. Où ça, c'est une histoire de faux mariage pour des papiers. Et une de mes rom-coms préférées, qui est en plus française, le fameux Prête-moi ta main, le meilleur film de fausse relation.
J'adore.
Avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, donc on vous recommande très chaudement.
On fera peut-être un épisode dessus, quand on aura plus d'idées. Et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode.
Oui, comme toujours, merci à ceux qui ont écouté les épisodes précédents.
Vous êtes peut-être 6 maintenant.
Yes, et qui nous ont envoyé des petits messages pour nous dire qu'ils nous avaient écoutés. Ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à nous donner vos retours parce qu'on est toujours en train d'évoluer
exactement
dans ce podcast.
Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous mettant des petites étoiles sur iTunes. Comme ça, peut-être qu'un jour...
Est-ce que c'est ça la fancy life, de demander aux gens de mettre des étoiles sur iTunes? On est devenus fraîches. Yes.
On a toujours été fraîches. Mais voilà, n'hésitez pas à drop un com, lâche ton com sur iTunes.
Voilà, on rentre en trip. Non, ça marche pas comme ça, on n'est pas sur Skype.
Stop.
Bon, merci Clara.
Merci Flore.